Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique.
Ce résultat est historique. Je suis la candidate du peuple.
Cette marche citoyenne, cette insurrection.
Philippe Le Caplain.
Le décryptage de la vie politique en France, c'est maintenant sur RFI et c'est avec vous Erwan Lestrohan. Bonsoir.
Bonsoir.
Directeur conseil à l'Institut de sondage Odoxa. Les cinq jeunes en garde à vue depuis avant-hier dans l'enquête sur la mort d'un adolescent passé à tabac à Viry-Châtillon ont été déférés en vue d'une mise en examen. Le décès, quatre jours après une autre attaque violente contre une collégienne à Montpellier, provoque l'émoi en France, particulièrement à Viry-Châtillon. Écoutez le maire, Jean-Marc Villain.
Il faut apprendre aux enfants, quand ils sont jeunes, il faut leur apprendre que oui, il y a le bien, puis il y a le mal. Et puis le mal, on n'a pas le droit de le faire. Et surtout quand on le fait, on est puni. Donc il va falloir peut-être nous réapprendre à nous, à vraiment punir.
Très ému, le maire de cette ville où cet adolescent a été massacré. La ministre de l'Éducation a rencontré ce maire et la mère de l'adolescent qui a été frappée à mort. Elle reconnaît que les faits de ce genre sont de plus en plus nombreux. Michel Belloubet sur France Inter.
Les faits qui nous viennent des établissements scolaires, ce qu'on appelle les événements, les remontées, sont plus nombreuses qu'elles ne l'étaient auparavant. Mais c'est aussi parce que nous exigeons la fin du pas de vague. C'est parce que nous demandons que nous soit remonté l'ensemble de ces faits pour mieux les connaître et pour mieux les anticiper et pour mieux les sanctionner.
Erwan Lestrohan, comment les Français appréhendent-ils cette violence à l'école ?
Oui, c'est très intéressant quand on parle de l'école, d'avoir en tête qu'il y a de nombreux sujets qui ont récemment marqué l'opinion. On a parlé du niveau des élèves français, on a parlé de laïcité avec la baïa, on a parlé de la sécurité, mais celle des enseignants, avec ce qui s'est passé à Arras. On a parlé de sécurité des élèves. Quand on parle de sécurité à l'école, aujourd'hui, il y a une majorité de Français qui considèrent que le climat de violence est généralisé dans les établissements scolaires, qu'il s'agisse de violences verbales, psychologiques ou physiques. Et puisqu'on parle de violence à l'école, ce qui préoccupe particulièrement les Français aujourd'hui, c'est les questions de violence des jeunes. Il faut bien avoir en tête aussi qu'on est dans un contexte où les inquiétudes sécuritaires ont tendance à augmenter. Les Français ont le sentiment majoritaire que la délinquance augmente, ça les préoccupe beaucoup. Et on a deux épisodes de violence des jeunes qui ont particulièrement marqué l'opinion au cours de la dernière année. Les émeutes urbaines suite à la mort du jeune Naël en juillet 2023 et le drame de Crépol à la rentrée.
Alors, que faut-il faire pour lutter contre cet ensauvagement, comme disent certains ? La question divise. Écoutez tout d'abord Jean-Philippe Tanguy, qui est député Rassemblement National. Il était sur BFM TV à la mi-journée.
Contre l'hyperviolence, la première chose à faire, c'est resacraliser la personne humaine et l'intégrité physique. Il faut, par exemple, refuser tout aménagement de peine ou les limiter drastiquement pour les peines inférieures à 6 mois, pour toute atteinte à l'intégrité physique. Parce qu'on voit bien, ces barbares, ces nouveaux barbares, sentent bien que le mur de l'autorité n'existe pas. Ils testent la résistance de la République et ils voient bien qu'ils peuvent le pénétrer, qu'ils peuvent le remettre en cause, car la République, malheureusement, aujourd'hui, est laxiste. Il faut que les élèves, les jeunes qui posent problème soient sortis du système dans des centres éducatifs spécialisés qui permettent de traiter convenablement ces gens et surtout de protéger les innocents qui n'ont pas à subir ce genre de comportement.
François-Xavier Bellamy, qui emmène la liste des Républicains aux Européennes, est à la base un professeur de l'enseignement public. Il était sur LCI ce matin, d'abord pour s'en prendre au fait qu'un mineur est moins condamné qu'un adulte pour des faits similaires.
Il faut évidemment sortir de l'excuse de minorité. Elle veut dire l'impunité. Elle veut dire qu'un mineur sait qu'il ne lui arrivera rien. On a besoin de retrouver ses repères à l'IUFM. On nous disait, voilà, vous êtes de jeunes professeurs, vous ne devez surtout pas transmettre. Parce que c'est oppressant. Il faut au contraire laisser les élèves inventer leur propre représentation du monde. On nous disait il ne faut pas sanctionner, parce que sanctionner, c'est évidemment le signe d'une faiblesse. Quand vous sanctionnez, c'est que vous tenez à cette espèce d'idée d'autorité. Au contraire, il faut la déconstruire. Il faut l'horizontalité dans la classe. Il faut qu'il n'y ait pas de différence entre l'adulte et l'enfant, entre l'enseignant et l'élève. C'était la déconstruction qui était le cœur du projet éducatif. Et on s'étonne ensuite de se retrouver là.
À gauche maintenant, tout d'abord Raphaël Glucksmann qui mène la liste socialiste aux élections européennes. Il était sur RTL.
Que la justice soit intraitable, je suis évidemment pour. Mais simplement, le durcissement des peines seul ne suffira pas à répondre à une crise qui est d'ampleur, à une crise qui est une crise démocratique, une crise sociale, une crise de représentation de soi, de ce que ça veut dire qu'être français. La crise de l'école aujourd'hui, c'est largement une crise de la société dans son ensemble. J'entends quand on rappelle l'autorité de l'école de la Troisième République. Mais autour de l'école, il y avait quoi ?
Mais...
Il y avait des institutions qui fonctionnaient. Il y avait un écosystème dans la société qui tendait vers l'intégration à un projet collectif, à un projet commun. Aujourd'hui, le service militaire a disparu.
Cette demande d'autorité, vous y répondez comment ?
En reconstruisant les institutions qu'on a perdues, en reconstruisant ce sens collectif. Aujourd'hui, il n'y a plus d'institutions qui garantissent la mixité dans notre pays.
Manon Aubry, qui pour LFI, elle est la tête de liste pour le scrutin européen de début juin, était sur Europe 1 dans la matinée.
On peut, si vous le voulez, mettre tous les jeunes turbulents en prison, mais je ne suis pas sûre qu'on va arriver à prévenir ces drames. Donc, il faut remettre de l'humain, éviter de supprimer des postes dans des personnels, je pense aux assistants d'éducation. Quand le gouvernement a supprimé, par exemple, dans le dernier budget, 1000 postes d'assistants d'éducation, il porte une lourde responsabilité, le gouvernement. Parce qu'il abandonne les élèves, il les livre à eux-mêmes quand on perd des repères, de l'entourage, d'adultes. C'est 1000 postes, c'est pas rien. Ce sont des adultes qui sont souvent les premiers liens avec les élèves à la sortie de l'école, etc.
Alors, en regard à toutes ces déclarations, souhaits, promesses et critiques, il y a ce que dit la ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet.
Les jeunes sont à l'école 8 heures par jour, et donc dans ce temps-là, nous devons à la fois les éduquer, ça c'est l'instruction, mais aussi les éduquer pour tout ce qui touche à la fraternité, à la vie en société, au respect. Dès la rentrée prochaine, il y aura une demi-heure de plus d'enseignement moral et civique, ce qui est évidemment un point important. Nous avons des équipes dans toutes les académies qui s'appellent les équipes académiques Valeurs de la République et qui sont là pour apporter un appui aux établissements, pour faire en sorte que la laïcité soit absolument respectée. Nous souhaitons faire un bouclier autour de l'école. Et c'est un bouclier juridique, un bouclier en termes de force de l'ordre, un bouclier en termes de contenu des enseignements. Tout cela doit être évidemment très présent et très fort.
Ce qu'on vient d'entendre, Erwan Lestrohan, confrontons-le à l'opinion publique. Chez Odoxa, vous sondez régulièrement les Français sur ces sujets.
Oui, et ce qu'on observe, c'est vraiment que quand les Français doivent donner les raisons qui expliquent le mieux, selon eux, la survenue de ces faits, pour eux, ça vient d'un manque d'autorité, de sévérité. Et ce qui est, pour avoir le sentiment qui les habite, ils sont beaucoup plus dans la colère que dans la compréhension.
Les Français sont-ils favorables à des sanctions, au retour de l'autorité à l'école ?
Oui, tout à fait. Les Français attendent vraiment une réponse sécuritaire ferme. Et pour vous donner les mesures auxquelles 6 à 7 Français sur 10 souscriraient pour enrayer ces phénomènes de violence des jeunes, ils seraient favorables à des amendes pour les parents de mineurs délinquants. Il serait favorable à la mise en place de la vidéosurveillance aux abords des établissements, à la mise en place de portiques de sécurité, de fouilles d'agents de sécurité et même à l'abaissement de la majorité pénale à 15 ans. C'est vraiment une réponse sécuritaire, ferme et autoritaire qui est attendue par les Français.
Voilà donc pour l'opinion publique. Politiquement, maintenant, à qui profite cette séquence, comme on dit ?
Eh bien, ce qu'on voit, c'est que c'est le Rassemblement national qui est le plus crédible dans l'opinion aujourd'hui pour incarner l'ordre et l'autorité face à cette situation de désordre. Aujourd'hui, la majorité présidentielle ne suscite pas de la confiance chez les Français pour enrayer ces problèmes de violence aux abords et dans les établissements scolaires.
Pour autant, Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Éducation, a annoncé et obtenu l'interdiction de l'abaya et il a lutté contre le harcèlement scolaire. Donc ça, c'est plutôt au crédit du pouvoir en place.
Oui, tout à fait. À ce moment-là, 88% des Français étaient favorables à ce qu'on fasse de la lutte contre le harcèlement scolaire une priorité absolue. 74% des Français étaient favorables à l'interdiction de l'abaya dans les établissements. Mais dans le même temps, on avait 6 Français sur 10 qui nous disaient qu'ils n'avaient pas confiance en Gabriel Attal pour améliorer la sécurité dans les établissements. C'est vrai qu'on n'est pas seulement sur le champ de l'éducation et de l'enseignement, mais vraiment sur la question sécuritaire, sur laquelle le gouvernement est quand même beaucoup moins crédité que d'autres partis et peine à donner des gages de confiance.
Au bout du compte, est-ce que vous diriez, Erwan Lestrohan, que le Premier ministre était en difficulté dans la mesure où, arrivé à Matignon, sur le perron lors de sa prise de fonction, il avait dit qu'il emportait le dossier d'éducation avec lui.
Oui, et d'ailleurs, la volonté de Gabriel Attal, quels que soient les ministères, de rétablir la place de l'ordre républicain, ça fait partie de ses forces d'image. C'est un point qui est très apprécié autour de la personne de Gabriel Attal. Maintenant, les Français, au-delà du discours, sont quand même très sensibles à la question de l'efficacité de l'action publique. C'est là-dessus qu'il va être jugé. On est dans une confrontation au terrain, à la demande de réussite des Français sur un sujet de sécurité qui les inquiète beaucoup. Donc c'est un test important pour lui et aussi pour sa marge de manœuvre pour la suite. Il va devoir montrer aux Français que l'action publique peut être efficace sur ce sujet.
Vous écoutez Dimanche Politique sur Radio France Internationale.
Philippe Le Caplain.
L'ampleur du déficit de la France, qui est de 5,5% du PIB, c'est-à-dire de la richesse, continue d'animer le débat politique. D'autant que ce dérapage peut amener, à la fin du mois, deux agences de notation à dégrader la note financière de la France, qui aurait des conséquences derrière, certainement en termes de taux d'intérêt. Erwan Esseron, on pourrait croire que l'économie, les finances de l'État, ça passionne pas les Français. Il n'en est rien.
Oui, c'est vrai que c'est une fausse croyance. On pourrait penser que les Français se préoccupent peu de la dette publique, que c'est un sujet trop macro, trop politique, trop intellectuel, que les Français ne perçoivent pas bien ce sujet qui demande de l'expertise. Eh bien, pas du tout. En fait, les Français ont un avis très clair sur cette question de la barre des 3% sur le déficit. Pour eux, c'est un objectif important, beaucoup plus qu'une contrainte. 75% jugeaient dans un sondage qu'on a fait il y a deux semaines pour Le Figaro et Backbone Consulting que ce serait grave de ne pas atteindre cet objectif. Et surtout, ce qui est très important à noter, c'est que le niveau d'inquiétude des Français pour la situation économique nationale si notre note était dégradée dans les mois qui viennent est le même qu'au moment de la perte du triple A en 2012. C'est-à-dire que non seulement l'inquiétude est vive, deux tiers des Français pensent qu'une dégradation de la note nationale aurait des conséquences graves pour notre économie, mais l'inquiétude est toujours aussi forte qu'en 2012, c'est-à-dire que les crises sanitaires, la crise de l'Ukraine, les préoccupations liées au pouvoir d'achat n'ont pas balayé ces inquiétudes à l'égard du déficit. Et point important aussi, 48% des Français pensent qu'une dégradation de la note de la France pourrait avoir des conséquences graves pour leur propre situation. 48%, c'est même 7 points de plus que ce qu'on mesurait il y a deux mois. Donc c'est une inquiétude élevée, en hausse, et donc très vraisemblablement un enjeu politique majeur.
Alors, où trouver de l'argent? Les clivages sont importants. Haro sur les riches pour la gauche, Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique.
Est-ce que vous trouvez normal que 67 milliards de dividendes soient versés par les entreprises du CAC 40, que chaque année on batte un record et que dans le même temps il y ait 3000 enfants qui dorment dans les rues? Est-ce que vous trouvez normal qu'on s'attaque aux droits des chômeurs quand dans le même temps on peut constater, tous les fiscalistes le disent, que les dividendes versés aux actionnaires sont moins taxés que le travail? Et donc nous on veut moins de taxes sur le travail que sur les dividendes. Ça nous semble absolument logique, c'est pas ce qui est fait aujourd'hui. La taxation sur les plus hauts patrimoines à l'échelle du continent européen, ça rapporterait jusqu'à 200 milliards à l'échelle du continent.
La France insoumise avec Manon Aubry est à peu près sur la même longueur d'onde.
Ce gouvernement ne veut pas s'en prendre ni aux super-profits, ni à la richesse, à la fortune des super-milliardaires. Alors, quand on sait qu'il y a des millionnaires, le gouvernement est composé à moitié de millionnaires, on comprend mieux pourquoi ils freinent des cas de fer. Avec la réforme fiscale que nous proposons, plutôt que d'appauvrir nos chômeurs et de créer de la pauvreté dans notre pays, on ira chercher de l'argent là où il est, dans la poche. 42 milliardaires français ont fait plus de 240 milliards d'euros. Et j'observe au passage que Bruno Le Maire, quand même, nous demande de rembourser un trou financier qu'il a lui-même creusé. Il se présente en Mozart de la finance, pardon, mais ce sont des tocards de l'économie.
Et à l'autre bout de l'échiquier politique, ce que dit le RN avec Jean-Philippe Tanguy.
Nous baisserons les taxes globalement pour les Français, en particulier les Français qui travaillent ou qui ont travaillé, les retraités. Nous limiterons donc la flat tax, c'est le même impôt pour tous les revenus financiers, petits ou qu'ils soient de plusieurs millions d'euros. Nous baisserons la TVA de 20 à 5,5 sur les énergies. Nous supprimerons la TVA pour les produits de première nécessité. Nous supprimerons la CFE pour les artisans et les commerçants, les choix de M. Macron ont privilégié les multinationales. C'est un changement de logiciel. Or, je refuse d'entendre, excusez-moi, d'accepter que la Macronie toute la semaine essaie de faire croire que nous allions augmenter les impôts alors que c'est eux qui ont eu le record de prélèvements obligatoires. Le record de l'histoire de France de prélèvements obligatoires, c'est M. Macron et M. Attal.
Erwan Esseron, d'Odoxa, vous nous dites que les Français sont enclins aux économies, mais en faveur de quel type de mesures?
Oui, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'ils sont préoccupés par ce déficit public. Après, il faut voir les mesures auxquelles ils sont favorables ou opposés pour lutter contre ce déficit public. Ils sont par exemple majoritairement favorables à baisser le nombre de fonctionnaires, à baisser le montant des aides sociales. Et en ça, la réforme de l'assurance chômage souhaitée par l'exécutif est plutôt soutenue par l'opinion. Par contre, ils sont très fortement opposés, 7 à 8 sur 10 sont opposés, à ce qu'on augmente les impôts et taxes et à ce qu'on baisse les dotations aux collectivités.
Et à qui font-ils confiance pour réduire ces déficits?
Et bien alors, le sentiment qui est quand même très prégnant dans la population, 6 personnes sur 10 le partagent, c'est que le gouvernement augmente trop la dépense publique. 7 Français sur 10 n'ont pas confiance dans le gouvernement pour réduire le déficit public. Et quand on demande pour chacun de ces partis, lui faites-vous confiance pour lutter contre la dette et réduire le déficit public. Aucun parti n'atteint la barre des 50%, mais celui qui arrive au plus haut niveau de confiance, c'est le RN, 33%, loin devant Renaissance, 23% de confiance uniquement, devant LR aussi et les forces de la NUPES. Donc c'est le RN qui arrive plutôt en tête, avec une crédibilité finalement qui s'est perdue pour Emmanuel Macron sur cette question de la dette et de l'économie, qui était plutôt une de ses forces d'image, et qui est plutôt gagnée par le RN.
Vous venez de parler de LR. Il y a les recettes des Républicains exposées par François-Xavier Bellamy.
On est le pays du monde qui a le plus fort taux de prélèvement obligatoire. Donc oui, nous, on assume qu'on relancera l'économie de ce pays en baissant le poids des charges qui pèsent sur les Français. Et que oui, on ne peut pas retrouver un dynamisme économique si on continue d'asphyxier le pays avec ce taux de prélèvement obligatoire qui est le record mondial aujourd'hui. Il n'y a pas de pays de l'OCDE où les prélèvements obligatoires soient plus importants qu'en France. Ce qui justifierait une motion de censure, ce sont les lignes rouges que fixe Éric Ciotti, c'est si le gouvernement voulait se défausser de son dérapage budgétaire en augmentant encore les prélèvements obligatoires, alors oui, nous serons obligés de protéger les Français de cette dérive extrêmement grave.
Et ceci par une motion de censure, envisagée donc par LR. Les lignes rouges évoquées par le patron des Républicains, c'est refus de toute augmentation des prélèvements obligatoires, refus de la désintégration des retraites et des dépenses de santé qui ne doivent pas constituer une variable d'ajustement. Alors en plus du casse-tête économique et financier pour trouver de l'argent et faire des économies, se profile Raphaël Devolvé du service politique de RFI, dont l'opposition est de la part du parti de droite, un casse-tête politique. Alors LR menace de voter une motion de censure.
Reste à connaître le calcul exact de la droite. Est-ce pour forcer l'exécutif à inclure dans un projet de loi de finances rectificatif les mesures d'économie défendues chaque année par les Républicains lors de l'examen du budget? Ou bien LR envisage sincèrement de renvoyer le gouvernement pour imposer un Premier ministre issu de sa famille, sans écarter le risque d'une dissolution? Et puis quand déposer cette motion de censure? Maintenant, au risque d'être taxé d'opportunisme à l'approche des européennes, après les élections, avant ou après les Jeux Olympiques? L'incertitude est savamment entretenue, mais la menace prise très au sérieux en haut lieu, le ministre de l'économie a tenté de réunir plusieurs cadres LR la semaine dernière pour commencer à négocier. Ils l'ont poliment éconduit. Les prochaines semaines s'annoncent donc pleines de turbulences.
Erwan Estran, motion de censure, on en parle souvent. Plusieurs dizaines ont été déposées sous la Ve République, mais sans succès.
Oui, tout à fait. Il y a près de 120 motions qui ont été déposées, de motions de censure. Une seule a été adopté en 1962. Il faut bien avoir en tête un point, c'est que ça implique un changement de gouvernement quand une motion de censure est adoptée à la majorité à l'Assemblée nationale, mais pas nécessairement une dissolution.
Un peu d'arithmétique, et pour tout dire de calcul politique, est-ce que LR a des raisons de croire qu'il tirerait profit de ce dépôt de motion de censure, et au-delà d'une possible, vous le disiez, dissolution?
Non, alors a priori, vu les équilibres électoraux actuels, on se peut se dire que LR aurait à gagner en termes d'image aujourd'hui, en étant au premier plan et l'instigateur de la motion de censure. En revanche, l'hypothèse qu'on peut faire au vu des tendances électorales du moment, c'est que non seulement ils ne renforceraient pas leur poids à l'Assemblée, mais peut-être aussi qu'ils courraient très fortement le risque d'être débordés sur leur droite par le Rassemblement national, qui deviendrait potentiellement hégémonique au sein de la droite. Ce qu'on voit dans les tendances actuelles tout de même, c'est que une Assemblée nationale, s'il y avait des élections législatives demain, aurait une très forte couleur RN qui potentiellement pourrait être le premier groupe politique à l'Assemblée nationale. Donc les Républicains perdraient même définitivement la domination au sein de la droite.
Donc ça veut dire que l'évocation de cette motion de censure, c'est juste un coup de pression?
Non, c'est probablement la manière de s'imposer stratégiquement dans le débat, comme LR a pu le faire au moment de la loi immigration. En revanche, il est loin d'être dit que ce soit un pari gagnant électoralement.
Un mot sur la montée de Raphaël Glucksmann dans les sondages que vous observez avec Odoxa en perspective des européennes.
Oui, c'est une montée qui est importante, parce que ce qu'elle montre, c'est que, alors on sait que les élections européennes sont des élections un peu défouloirs, c'est plutôt des élections de mi-mandat pour Emmanuel Macron, que les Français ont beaucoup plus tendance à changer leur vote sur des élections européennes qu'ils ne le font à l'élection présidentielle. C'est des élections qui sont assez instables. Ce qu'on voit, c'est que la liste de Raphaël Glucksmann incarne le vote utile à gauche dans un contexte où la France insoumise réaliserait un score autour de 6-7%, c'est-à-dire son niveau de 2019. La liste écologiste diminuerait de deux fois son score de 2019. Ils étaient à 13%, ils sont donnés entre 6 et 7 aujourd'hui. Le vote utile à gauche, ce serait la liste Glucksmann. Ce que ça montre aussi, c'est que ça replace le Parti Socialiste, place publique, mais le Parti Socialiste, en position de domination au sein de la NUPES. Ça rééquilibre les choses et ça place un centre de gravité